s'est évadé. Voilà, il y en a un en tous les cas qui ne mourra pas à Corbin. Voilà, donc on espère qu'il va réussir son évasion.
Émission en solidarité avec les détenus et leurs proches. Rubrique, émission contre toutes les prisons. Lecture de texte de prisonnières et prisonniers. Émission contre toutes les prisons. Message des proches.
La petite cuillère.
Bonsoir et bienvenue à la première émission de l'année de La Petite Cuillère. Émission anticarcérale. Aujourd'hui, on va vous parler de tout un tas de choses. On va commencer par vous faire un petit point sur Angoulême, ensuite un petit point basque. On ira ensuite en direction de Guéret, où on parlera d'une pétition qui a été faite là-bas sur les conditions de détention. Ensuite, on partira en Turquie, on vous parlera de Erdogan et de grève de la faim. On vous parlera de la nouvelle prison de Riom. Ensuite, nous vous lirons un communiqué, voilà, suspense pour la suite. Un petit moment où on vous dira que la prison, tu sais jamais quand t'en sors. Nos traditionnels bruits qui courent et lime à ongles, puis un petit son sur les parloirs et l'état d'urgence, et sur Amin Bentounsi. Voilà. On commence avec Angoulême.
On commence avec Angoulême. Avant, vous pouvez aussi nous écrire 91 rue Montesquieu, 69007 Lyon, atelier d'écriture. Et vous pouvez aussi nous laisser des messages, si vous le souhaitez, sur notre boîte vocale. Le répondeur, le numéro, ça va être...
Le 07 81 35 93 71. 07 81 35 93 71 pour nous faire passer n'importe quelle information autour de la tôle ou depuis la tôle. Aussi, vous pouvez nous écrire des mails à lapetitecuillère@riseup.net, la petite cuillère tout attachée, @riseup.net. N'hésitez pas à nous faire passer des infos, on les dira dans l'émission qui suivra.
Voilà, merci. Et alors, sur Angoulême, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une prison à Angoulême, et là-bas, il y a l'inspection du travail qui s'est pointée en novembre 2015. L'inspection du travail, c'est rare qu'elle inspecte des boîtes, mais c'est encore plus rare qu'elle intervient en prison. C'est très exceptionnel. Sa dernière visite à la maison d'arrêt d'Angoulême, c'était en septembre 2012, il y a 3 ans. Et là, elle constatait de nombreux manquements aux règles, mais là, pour le coup, elle a encore constaté des manquements, et souvent exactement les mêmes qu'il y a 3 ans. Du coup, en pointant que, en fait, il n'y a rien qui a été fait depuis sur les conditions de travail des détenus. En cuisine, par exemple, les chariots sont tous défaillants, l'armoire électrique, elle n'est pas fermée. Voilà, il y a aussi des problèmes qu'elle pointe sur les locaux de stockage où on stocke des produits dangereux à côté de produits alimentaires, tout ensemble. Elle pointe aussi des problèmes dans la lingerie où les fils électriques pendent du plafond, dans l'atelier visserie aussi où il y a d'autres problèmes rapport aux éclairages. Voilà, et puis elle pointe aussi dans des ateliers des températures de travail vraiment élevées et plein de petits problèmes comme ça. Mais du coup, c'est surtout que depuis 2012, en fait, il n'y a rien qui a été fait. En août 2013, il y a par exemple, il y avait déjà le contrôleur général des lieux de privation de liberté qui disait qu'il fallait améliorer les conditions de travail des détenus. Et en 2015, en fait, il y a toujours... C'est dans le même état. Je pense qu'en 2016, c'est toujours dans le même état. L'inspection du travail, elle va rarement en détention, elle va rarement en prison. Et en plus, quand elle y va, elle a presque aucun pouvoir à part sortir un rapport comme ça. Parce que le droit du travail, il s'applique très peu en prison. Et du coup, il y a aucun droit sur les conditions d'embauche, les conditions pour licencier une personne qui travaille, et sur les rémunérations où les salaires peuvent être 5 fois moins élevés qu'en dehors de la prison. Et l'inspection du travail, du coup, elle regarde pas du tout ni les rémunérations, ni les conditions d'embauche, les horaires et tout ça. Les horaires de travail et si toutes les heures sont payées, par exemple. Et en ce qui concerne l'application des règles d'hygiène et de sécurité, l'inspection du travail, elle ne peut pas obliger l'administration à faire quelque chose, elle peut simplement rendre un rapport. Voilà, et c'est aussi que l'inspection du travail ne peut pas verbaliser l'employeur, que ce soit, si c'est l'employeur, c'est la prison elle-même, ben elle ne peut pas du tout mettre des sanctions financières contre la prison. Mais elle ne peut pas non plus mettre des sanctions financières contre le prestataire de service, enfin contre le donneur d'ordre, parce qu'il y a aussi des entreprises qui font faire leur travail en prison, en blanchisserie ou en quoi, et que ces entreprises-là, en fait, elles ne seront jamais sanctionnées si jamais il y a des entorses au droit du travail qui sont constatées. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'inspection du travail qui s'est pointée à Angoulême en novembre dernier. Et maintenant, on s'en va dans le Pays Basque.
Voilà, on fait un petit point sur la manif qui a eu lieu le samedi 9 janvier dernier à Bayonne et à Bilbao, des deux côtés de la frontière franco-espagnole. Cette manif a été pour réclamer la fin de la dispersion des détenus liés à ETA et leur rapprochement du Pays basque, et que les prisonniers et prisonnières malades soient remis en liberté. Il y a plus de 400 prisonniers basques, membres ou proches d'ETA, qui sont dispersés dans 73 prisons en France, comme en Espagne. Alors à Bilbao, les manifestants, ils étaient plus de 70 000, ce qui est vraiment énorme. Et dans le même temps, à Bayonne, ils étaient 10 000.
Ce qui est énorme aussi, vu la taille de la ville de Bayonne.
Le rassemblement de Bayonne, il s'est aussi adressé au gouvernement des deux pays en les accusant de tout faire pour bloquer le processus de paix, en s'obstinant dans la voie répressive. Apparemment, Christiane Taubira, en septembre 2015, elle avait évoqué, je cite, « la possibilité de rapprochements familiaux qui seraient réalisés selon des critères liés aux durées de peine, aux conditions de sécurité des établissements pénitentiaires et aux projets de réinsertion ». Donc bon, c'est pas vraiment gagné. Cette manif, elle était aussi en soutien à Lorraine Taguimo. C'est une prisonnière politique basque qui est incarcérée à Rennes et qui est atteinte d'une maladie... la maladie de Crohn, à un stade très avancé. Ça fait qu'elle fait des allers-retours aux urgences régulièrement. Elle a fait une demande de libération conditionnelle en mars 2015, et il y a le juge d'application des peines qui a estimé que sa libération était nécessaire pour qu'elle bénéficie des soins indispensables dans les meilleures conditions. Mais à ça, le parquet a fait appel, et ça a entraîné son maintien en détention dans l'attente d'une audience judiciaire qui a lieu aujourd'hui. Et je ne sais pas ce que c'est le rendu, je n'ai pas réussi à trouver.
Bah voilà des infos qu'on essaiera de vous donner une prochaine fois, quoi, de se tenir au courant là-dessus.
Et comme avant, les Basques laissaient des messages pour les prisonniers et prisonnières qui étaient dans la tôle de Corba dans la région lyonnaise. Bon, on relance un appel aussi, nous écouter en ce moment. C'est toujours possible de laisser des messages, vous pouvez toujours passer le message à vos familles et vos proches.
Et oui, ben on va peut-être s'écouter une petite musique. Qu'est-ce qu'on en dit ? Ça a l'air bien.
Ouais.
Vous êtes sur Radio Canu 102.2 FM, sur la petite cuillère sur la région lyonnaise. Et vous pouvez nous écouter sur le site de Radio Canu, partout ailleurs, et nous retrouver plus tard sur notre blog. On écoute la petite musique.
Et aussi nous écouter sur Radio Audio.
Oui.
La rediffusion en direct.
Et oui, c'est vrai.
My girl said we had must and hate. Some are hitting close, some pretend to be dead. Gathering this always hunted them when you can. Yeah, I'm a screaming, I'm a taking over your head. Some were born deep, deep years ago. And all you had were gaga, goo goo fingers and toes. And some grew up with you, dug a place in your soul. Admit that some must eat on one leg up. Thirsty monsters always had a bottle in hand. Gotta buy a bottle, bond, try as hard as you can. Gotta do your DNA, what you can do to forget. Gotta buy a bottle, chug it down, give no place to regret.
We gonna fool monsters.
Then we got my bells, my game is over. It's when you witness, I saw the princess. She ain't mama, damn, I just don't mind. You see my greedy monster? She gonna take a little cookie monster. He's a trick-or-treater. Ain't my hunger past the bread and butter. It's like my potion for emotion. Need a box solo down, cause I'm stuck with my frown. I got a bunch in a cane. She gonna hit the fan. Monster's taking over like killer ants. My eyes, my friends, my lies, my pants. And I run away so far in the game. Ain't no fun to play if war's in the game.
glory story. Never gonna see me escape my drama, homie.
Voilà la petite musique. Nous venons d'écouter Random Recipe, Monsters and Swords. Et si on passait du côté de Guéret maintenant ?
Du côté de Guéret, on en parle un peu cette semaine parce qu'il y a eu un article, ça remonte un peu, c'était en octobre dans La Montagne, le journal local comme Le Progrès, mais du côté de Guéret. Et alors cet article, il titrait exemplaire en parlant de la tôle locale. Et indiquait que l'administration pénitentiaire aurait injecté 1 million d'euros dans l'établissement en 4 ans. Tout ça avec des conditions de détention qui se sont vachement améliorées et tout le monde était très content dans l'article. Alors les détenus, ils ont accès à la presse locale en prison, à La Montagne, ils la reçoivent. Et alors ils ont un peu halluciné en voyant l'article et tout de suite ils ont qualifié tout ça de mensonge et ils ont lancé une pétition qui a été signée par la moitié des personnes incarcérées. C'est énorme parce que faire une pétition en prison, c'est interdit, parce que faire une pétition en prison, il faut le cacher, il faut que tout le monde soit de confiance et tout ça. Et que du coup, quand on arrive à être 4, c'est beaucoup, mais 10, c'est mieux, et la moitié des détenus, c'est vraiment énorme. Parce qu'ils étaient en colère contre l'article de La Montagne et parce qu'ils contestent du coup tous ces travaux qui ont été soi-disant réalisés. Ils disent qu'en fait, il n'y a pas du tout toutes les cellules du centre pénitentiaire qui ont été refaites. En vrai, il y en a 4 qui ont été entièrement refaites. Et les autres, elles ont été rafistolées à la va-vite. Et en fait, il y a même après que l'administration pénitentiaire les considère comme totalement rénovées, il y a encore des fuites dans les chiottes depuis plus de 8 mois. Alors, voilà, ils dénoncent ça. Ils dénoncent la vétusté en général, le manque d'hygiène dans les cellules. Dans les toilettes, ils dénoncent aussi l'accès aux douches qui est très limité, la cour de promenade qui est en sale état, les cabines téléphoniques qui sont défaillantes. Les cabines téléphoniques, c'est un truc important parce qu'en détention, les portables sont interdits et du coup, ça, les cabines téléphoniques, ça reste un moyen nécessaire pour rester en contact avec les proches à l'extérieur. Alors, ils pointent tout ça. Ils disent que la cour de promenade, notamment, est dans un état catastrophique et qu'il y a bien eu un abri, en fait, qui a été construit. Sauf que l'abri, il permet pas à 3 personnes de s'abriter en même temps. Et du coup, quand il flotte et qu'il y a 20 personnes dehors, eh ben, c'est juste chiant. Et il continue avec les urinoirs où il y a plein de rats dedans. Il continue, voilà, avec plein, une longue liste comme ça. Et, en fait, là où l'administration pénitentiaire elle a été maligne et que les signataires de la pétition ont relevé, C'est que ce qui a été fait, par contre, c'est la façade extérieure. Et encore, elle a été refaite pas à n'importe quelle occasion, elle a été refaite 2 semaines avant la visite de la direction interrégionale de Bordeaux pour une cérémonie, et c'était ça mi-octobre, au moment de l'apparition de l'article. Voilà, et pour dire que, en fait, il n'y a pas que les détenus aussi qui sont de cet avis-là sur cette prison à Guéret. Il y a aussi le contrôleur général des lieux de privation liberté qui a fait exactement les mêmes constats que les détenus en sa dernière visite, c'était en juillet 2014, et que depuis, en fait, les détenus disent que rien n'a été fait à part cette façade extérieure refaite à la va-vite avant une cérémonie officielle. Voilà comment l'administration pénitentiaire, elle s'en sort pour améliorer, soi-disant, les conditions de détention et compagnie. Et maintenant, du coup...
Je vais juste faire ouvrir en fait sur L'Envolée, qui est un journal anticarcéral qui publie des lettres et des luttes qui sont menées dans les tôles, et qui avait lancé le printemps dernier un appel en fait de revendications et de plateformes qui vient des prisons par les prisonnières et par les prisonniers, qui avait été relayé par quelques prisonniers et prisonnières. Et voilà, c'est pour rappeler en fait que le travail que se fait le journal. Et si vous voulez leur écrire, c'est L'Envolée 43 rue de Stalingrad 93 100 Montreuil, ou sur le site, vous tapez sur Google l'envolée.net, et voilà pour cette lutte. Peut-être qu'on en entendra plus parler aussi à travers ce collectif qui essaye de relayer tout ce qui se passe de ces formes de lutte-là.
Ouais, on espère. Ça va donner quelque chose. Et sur les conditions de détention, il y a aussi des grèves de la faim, une grève de la faim en ce moment.
C'est ça. Il y a Erdogan Shakir. C'est un militant kurde qui est incarcéré en France à la maison d'arrêt de Villepinte depuis octobre dernier, qui vient de terminer sa grève de la faim qui a duré quand même 43 jours. Du coup, c'est pour replacer, là, c'est au lendemain des attentats du 13 novembre qu'on lui annonce que désormais, les fouilles à nu seront systématiques à l'issue des parloirs, alors qu'aucun incident ne vient justifier ce changement, quoi. Du coup, pour éviter ces fouilles humiliantes, il a demandé à pouvoir bénéficier de parloirs et diaphones, qui comportent une vitre qui sépare totalement la personne détenue de son visiteur. Et la demande lui a été refusée au motif que le parloir hygiaphone n'empêche pas qu'il soit fouillé et que ces box sont des sanctions et non des choix. Voilà, c'est donc le 27 novembre qu'il entame une grève de la faim et qu'il engage aussi une action en justice pour dénoncer la situation. Il a refusé plusieurs fois de se faire fouiller à nu à la fin des parloirs. Du coup, il a été placé à 2 reprises pour 8 jours à chaque fois en quartier disciplinaire. Donc ça fait 16 jours en tout. Et pendant qu'il était au quartier disciplinaire, l'administration a refusé que soient mis à sa disposition les sucres et sels minéraux qui sont nécessaires lors d'une grève de la faim et qui étaient pourtant légitimés par une prescription médicale. L'OIP nous rappelle que, je cite, « à moins d'être pleinement justifié par des impératifs de sécurité, la pratique des fouilles intégrales systématiques a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme ». La loi pénitentiaire de 2009 est venue strictement encadrer leur recours, conditionnant leur usage au principe de nécessité. La décision de soumettre une personne détenue à une telle mesure doit ainsi être justifiée par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement de l'intéressé fait courir à la sécurité des personnes, de l'établissement ou de l'ordre public, et ne doit être prise que si les moyens de contrôle, les autres moyens de contrôle, donc fouilles par palpation, portique, de détection métallique, s'avèrent insuffisants. Et en ce qui concerne Erdogan, c'est seulement le motif de sa condamnation qui a motivé la décision des fouilles intégrales, sans que son comportement soit pointé comme risqué pour l'ordre public ou quoi que ce soit. Surtout que la maison d'arrêt de Villepinte, elle dispose des autres moyens de contrôle que l'OIP cite plus haut, là, c'est-à-dire un portique de détection et tout ça. Après 43 jours de grève de la faim, du coup, ça, le 8 janvier dernier, à 4 jours de l'audience pour son action en justice qu'il avait menée, l'administration lui a indiqué que finalement, elle accédait à sa requête, c'est-à-dire le droit à des visites avec parloir et diaphone sans fouille intégrale. Du coup, Erdogan a cessé sa grève de la faim, mais le jour même, il a été transféré au centre pénitentiaire de Réau. Ce qui fait que la décision, ça rend inutile en fait la décision qui lui avait été notifiée par la paix quelques heures plus tôt. Et on ne sait pas encore si les visites à Réau, elles vont se dérouler mieux qu'à Villepinte.
C'est quand même fou avec une lutte aussi longue, là, de 40 jours de grève de la faim, de mitard et tout ça, et arriver à 4 jours de l'audience. En fait, l'administration pénitentiaire, elle sait bien que c'est complètement illégal, que c'est... qu'il n'y a rien qui a de plus contre lui depuis l'état d'urgence, en fait. Et que, du coup, comme ils savent qu'il n'y a rien d'illégal qu'ils vont perdre, tac, ils lui disent non, en fait, c'est bon.
Et puis juste après,
et juste après le transfert. Enfin, et ce qui fait qu'à Réau, après, ils pourront encore lui faire la misère s'ils veulent. Parce que tant qu'il refait une grève de la faim, une grosse lutte comme ça, c'est indéfini.
Et on passe au sujet suivant, la nouvelle prison. Une équipe dynamique.
Une nouvelle prison à Arion, ils sont contents. Arion, dans le Puy-de-Dôme, c'est en Auvergne, là, c'est pas loin. Il y a une nouvelle prison. Alors, l'ancienne, elle a été désaffectée. Là, c'est le grand mouvement vers des nouvelles prisons qu'on nous vend. Mais alors, il y a 10 ans, on ouvrait des nouvelles prisons et on disait qu'elles étaient les meilleures du monde et puis totalement humaines et l'enfermement, les gens, ils allaient aimer ça et tout ça. Et ben là, ils continuent en fait à vouloir dire exactement la même chose, alors qu'à chaque fois, c'est des catastrophes. Alors, par exemple, dans le canard local, qui n'est pas le progrès, enfin si, qui est le progrès même maintenant, attends, c'est idyllique, quoi, et on a l'impression que c'est pas une prison, c'est un centre de vacances. Et notamment, ils disent pas de mirador, pas de filin de sécurité, des cours végétalisés. On aperçoit, je fais une citation comme ça, on aperçoit même au loin la chaîne des puits qui offre un panorama de cartes postales. Non, on a l'impression que c'est un camp de vacances, la prison, ils sont complètement fous. Et en fait, c'est pour faire quoi? C'est une prison de 566 places, ce qui est gros, quoi, ce qui est vraiment un gros centre de détention. Avec des quartiers différents, avec notamment un quartier femmes de 30 cellules, de 30 places en cellules, pardon, et voilà, et un quartier de semi-liberté de 20 places. Et notamment, en fait, là, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il y aura tout un étage, un régime de détention où les détenus, ils pourront déambuler en journée et voilà, aller où bon leur semble, à l'intérieur de la détention, bien sûr. Cette prison-là, elle a coûté genre des millions et des millions d'euros, genre 80 millions d'euros. Il prévoit l'encellulement individuel presque systématique pour les détenus, ce qui est une revendication en fait depuis longtemps, mais c'est plutôt une revendication de pouvoir avoir une cellule individuelle si on le demande, plutôt que l'encellulement individuel systématique, comme là ça va vers ça, parce que le problème aussi c'est que ça isole beaucoup les détenus, notamment que là il y a les douches et les toilettes qui sont aussi à l'intérieur de la cellule, alors ça donne encore moins de sorties. Et sinon on peut lister toute la panoplie d'équipements et de loisirs qu'il y a à l'intérieur. On a l'impression encore une fois d'être dans un hôtel de luxe, mais ça risque de pas être le cas, et puis on verra dans un an ou dans deux ans comment est-ce qu'on commence à parler de ce nouveau centre de détention.
Puis le luxe, c'est où est-ce qu'on place la marque du luxe, parce que ouais. Les hôtels luxueux, c'est des suites, ouais, de 300 mètres carrés. Ouais. Là, c'est une suite de 9 mètres carrés.
Ouais, c'est ça. Il y a quand même des suites un peu plus grandes avec les parloirs familiaux là, qui ont été mis en place dans les années 2000. Et bon, il y en a quelques-uns, mais bon, encore une fois, il n'y aura aucun détenu qui va pouvoir y accéder. Plus de 24 heures, en tout cas. Bon, voilà, la nouvelle prison de Rion, ça fait doucement rigoler pour l'instant. On verra si ça a envie de se faire pleurer dans deux ans.
Mais oui, puis, ce qu'on peut rappeler aussi sur toutes les nouvelles prisons, comme on dit à chaque fois qu'on vous parle d'une nouvelle prison, c'est qu'ils laissent à l'abandon et en train de se dégrader à fond des vieilles prisons où ils entassent. Du coup, forcément, ça devient un besoin de créer une nouvelle prison. Et même les détenus, il y en a beaucoup qui sont contents de quitter la prison parce qu'elle devient tellement pourrie et tellement dégueulasse que tu peux pas rester dedans sans te choper des saloperies ou juste être pas bien, quoi. Et du coup, hop, ils font des nouvelles prisons et ils disent « Mais oui, mais on avait tellement besoin de cette nouvelle prison, elle est tellement super, elle est tellement high-tech ». En plus, ils font souvent ces nouvelles prisons sur des partenariats publics-privés, ce qui fait que ça coûte encore plus de sous à l'État, parce que l'État loue les établissements à des aux privés maintenant, pour beaucoup de nouveaux établissements. Et par ailleurs, c'est aussi des établissements où, comme tu disais, t'as pas le choix d'être avec des gens en cellule ou pas, t'es tout seul dans ta cellule. Il y a de moins en moins de contacts humains, parce que c'est plus des gens qui viennent t'ouvrir ou te fermer la porte, c'est des machines, enfin, qu'il y a tout un... toute une logique derrière qui rend complètement fou et qu'on voit de plus en plus comment ça se passe mal dans les nouveaux établissements high-tech, quoi. Voilà, rappelons-nous de ça.
Rappelons-nous de ça, et dans le chapitre Nouvelle prison, ouverte ou en construction en Belgique, ça continue. On vous parle régulièrement de la maxi-prison qui se construit en banlieue de Bruxelles, à Rennes, une prison de au moins 700 ou 800 places en cellule, qui est en construction avec en fait une grosse résistance, et il y a eu énormément d'actions ces derniers temps, ces deux dernières années, contre la construction de cette prison. Et là, deux jours après Noël, il y a un communiqué qui est parvenu sur les sites Indie Media, alors qu'on va vous lire, parce qu'il raconte les dernières actions directes contre la prison, la maxi-prison de Rennes, à côté de Bruxelles. Répondant par les actes aux appels à un décembre noir, répondant à nos désirs de liberté, répondant par l'attaque contre ce qui permet à ce système oppresseur et destructeur de perdurer. Durant les deux semaines qui viennent de s'écouler, c'est au moins 5 camionnettes de la compagnie de construction Eiffage qui ont senti leurs pneus se vider d'air qui les remplit. L'acte est simple, rapide et efficace. Un petit couteau qui se dissimule dans la manche, un grand coup sur le côté du pneu et ça donne un véhicule qui n'ira pas bosser à l'heure. En 30 secondes, plusieurs véhicules peuvent être immobilisés de cette manière. On sait que l'une des 5 camionnettes s'est fait péter les rétroviseurs et taguer sa carrosserie. Si vous ne comprenez pas le choix de cette cible, renseignez-vous au sujet des phages pour comprendre le rôle que cette entreprise tient dans la construction de prisons et infrastructures qui permettent au capitalisme de perdurer.
Un autre acte est venu tirer un grand sourire sur nos visages. Voilà les faits. Profitant de l'obscurité complice de la nuit et profitant de l'absence des vigiles sur le terrain dédié à la maxi-prison, absence sûrement due aux fêtes de Noël, des personnes ont choisi de s'en prendre aux grilles qui délimitent la zone de la maxi-prison, qui ne se fera pas. À coups de pince, une centaine de grilles se sont fait découper et tordre, ouvrant alors le passage vers ce terrain déjà emprisonné. La plupart des grilles sont maintenues, fixes, grâce à des tiges bloquées dans le sol par le béton. En secouant fort ces tiges, on peut faire céder le béton et sortir la tige du sol. Mais toute une partie des grilles sont seulement maintenues fixes grâce à des petits rectangles que l'on voit souvent pour tenir les grilles en place. Toutes celles-ci sont tombées et peuvent retomber indéfiniment. Si elles venaient à être fixées dans le sol, elles peuvent être découpées. Nous ne laisserons pas ce système perdurer. Nous attaquerons partout où l'occasion se présente. Pour l'autogestion de nos vies, pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être, pour la liberté, nous exprimons notre soutien aux personnes qui luttent sur la ZAD de Rennes, ainsi qu'à celles et ceux qui luttent hors de la zone. Notre soutien va aussi aux personnes attaquées par la justice des puissantes. Puissants. Tout notre soutien aux enfermés, du dedans comme du dehors des prisons, à nos complices, on vous embrasse fort.
Et voilà sur les dernières nouvelles de Bruxelles. Et maintenant, on peut écouter... Encore une petite musique sur Radio Canus en 102.2 FM à Lyon et alentour, et sur Radio Dio sur 89.9 à Saint-Étienne pour l'émission La Petite Cuillère.
89.5 Radio Dio.
89.5.
Allez, on écoute Barbara.
Bien sûr, ce n'est pas la selle, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, pas de quai et pas de rogue. La menthe qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, nous avons nos matins blêmes et l'ombre
brise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne reviennent le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, la. Serait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Alors c'était Barbara qu'on vient d'écouter. Et là, on va écouter un petit extrait de l'émission de Papillon de la semaine dernière qui n'a pas été diffusée sur Radio Canu. Ma collègue à la technique dit ben non, mais c'était pas par rapport à nous, vous inquiétez pas. Et parce que il relaie un appel de l'OIP, ben je vais pas expliquer ce qu'ils vont expliquer, mais ce qui était, ça nous intéressait en fait de relayer l'appel pour les familles et proches de détenus de la région lyonnaise, pour que nous fassiez des retours si la situation dans les parloirs est plus difficile depuis qu'il y a l'état d'urgence qu'on subit encore et pour quelques mois, et comme on a pu l'entendre avec la situation d'Erdogan, le militant kurde, prisonnier, je ne sais pas si il est militant, prisonnier kurde plutôt, et qui était en grève de la faim. Voilà, on va écouter 7 minutes de Papillon pour qu'il nous raconte tout ça. On s'était demandé un petit peu ce que ça donnait l'état d'urgence en prison. Et là, il y a eu l'OIP, donc Observatoire International des Prisons, qui a lancé un petit appel à témoins sur est-ce que l'état d'urgence a changé des choses en prison, parce que en gros, c'est des proches de détenus, je pense, qui ont posé la question, est-ce que ça change quelque chose pour nous quand on va visiter nos proches au parloir? Est-ce que le régime sécuritaire et les contrôles sont renforcés par l'état d'urgence? Donc, l'OIP a répondu à ça. Il n'y a rien dans le texte sur l'état d'urgence qui vienne changer la question du contrôle avant les parloirs. Donc c'est bien la réglementation habituelle qui doit être appliquée. Et donc, en gros, l'Observatoire international des prisons rappelle ce que c'est cette réglementation. Donc je vais même vous la lire. Donc, en gros, avant de se rendre au parloir, les visiteurs doivent se faire identifier auprès du surveillant de l'accueil et faire contrôler leur pièce d'identité. Donc là, tout ce que je vous lis, c'est un extrait du guide du prisonnier qui a été réalisé par l'OIP. Donc je reprends. L'entrée dans un établissement pénitentiaire nécessite de découvrir son visage. En cas de refus, l'accès à l'établissement peut être refusé. Une fois entrés, les visiteurs et visiteuses doivent se soumettre aux mesures de contrôle jugées nécessaires pour des motifs de sécurité. L'usage est de les soumettre à un détecteur de métaux, en général un portique, parfois complété par un détecteur manuel. L'utilisation d'un tunnel d'inspection à rayon X est également possible. Malgré l'absence de loi ou de règlement le prévoyant, le déclenchement persistant, entre guillemets persistant, d'un portique entraîne l'impossibilité de bénéficier du parloir. Donc ça déjà, c'est plutôt comme ça que marche l'administration pénitentiaire d'ailleurs. Ça dépend carrément des prisons, ça dépend de l'humeur des surveillants et ça dépend d'un degré de tolérance qui varie vachement selon les prisons. Il y a des prisons où si tu sonnes plusieurs fois parce que t'as un objet métallique sur toi, ils vont te faire repasser, essayer de trouver qu'est-ce qui sonne, et s'ils comprennent ce que c'est, ils te laissent passer ou ils te font l'enlever. Et il y a des prisons où si tu sonnes une ou deux fois, tu dégages et c'est fini. Il y a des prisons où les trucs métalliques là dans les soutiens-gorge sonnent, et donc si tu sonnes, t'es dans la merde. Et la plupart des prisons, les soutiens-gorge ne sonnent pas, etc. Bon, voilà, c'est le style de la paix, c'est ça dépend des prisons et ça dépend de l'humeur des surveillants. Je reprends. Des dérogations à ces mesures de contrôle sont autorisées sur présentation d'un certificat médical. Et donc, dans ce cas, donc pour les personnes qui, pour des raisons médicales, peuvent pas passer sous le portique ou qui ont une prothèse métallique dans leur corps, l'administration pénitentiaire, le personnel, peut procéder à une fouille par palpation sommaire. Et donc, c'est un membre du personnel pénitentiaire du même sexe que le visiteur qui doit faire ça. Voilà. Pour ça, le consentement doit être recueilli. Mais si le visiteur refuse, il se voit refuser le parloir. De manière ponctuelle et lorsqu'un risque particulier pour la sécurité l'impose, entre guillemets, le chef d'établissement peut décider qu'en plus du passage sous le portique, une fouille par palpation soit réalisée. Donc moi, là, ce que je voulais préciser, c'est ce que j'ai vu dans plusieurs prisons au parloir, c'est qu'il y avait une petite note officielle qui disait « Vous pouvez refuser les palpations ». Par le personnel, mais en cas de refus, vous n'aurez pas accès au parloir. Après, moi, j'ai pas vu ça très souvent, mais ou pas souvent.
C'était des notes qui étaient affichées par l'administration.
Ouais. Okay. Donc, bien pour dire, pour se protéger en disant oui, c'est vrai, vous n'êtes pas obligé, mais de toute façon, si vous acceptez pas, vous dégagerez. Bon. Et donc, ça, c'est pareil. S'ils décident de mettre en place ces fouilles par palpation, c'est en fonction de la politique du directeur, de son humeur, de ce qui se passe, du contexte et tout ça. Bon, ensuite, les mesures de sécurité mises en œuvre doivent être dans tous les cas, ouvrez les guillemets, nécessaires et proportionnées au but poursuivi, à savoir l'impératif de sécurité ainsi qu'aux circonstances de l'espèce. Bon, en gros, s'ils ont des prétextes, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Enfin non, pas tout quand même. Et surtout, les visiteurs peuvent aussi être soumis à des contrôles dans le cadre d'opérations de police judiciaire organisées et menées par les parquets locaux assistés de services de police et des douanes. À cette occasion, ils peuvent même faire l'objet de fouilles intégrales. Assimilées à une perquisition par la Cour de cassation, ces fouilles obéissent aux règles de droit commun. Elles doivent être menées uniquement par un officier de police judiciaire, pardon, et pas par le personnel pénitentiaire. Une fois le parloir terminé, les visiteurs attendent dans la salle d'attente jusqu'à ce que le linge ait été fouillé, les détenus contrôlés et les objets autorisés contrôlés aussi, qui entrent en détention. Voilà. Donc en gros, c'est ça la loi. Donc en gros, quand même, le seul truc à rappeler qui est important, c'est que les surveillants n'ont pas le droit de fouiller, de toucher les gens, quoi. Ça se fait pas, ou de les mettre à poil, sauf cas exceptionnel, et dans ce cas on peut refuser. Et en plus, en général, c'est un peu limite, enfin ça peut être attaquable. Bon, c'est pas évident, c'est pas simple, mais en gros voilà, la question était: est-ce que les pratiques ont changé avec l'état d'urgence? En théorie, non.
C'est-à-dire que le texte qui dit qu'il y a un état d'urgence, ça implique rien pour l'intérieur des... pour l'administration, ça modifie pas de texte pour l'administration pénitentiaire.
En tout cas, pour les parloirs, non. Et après, bah là, justement, l'OIP fait un appel à témoins en disant « Dites-nous si les pratiques ont changé, et d'ailleurs, on verra s'il y a des pratiques qui sont attaquables. » Donc voilà, il faut aller voir sur Internet si vous voulez dénoncer des choses. Et donc, sur le forum prison, qui est un forum de proches de prisonniers, il y a des... Donc c'est là qu'il y a une nana qui a lancé la question: est-ce que l'état d'urgence change quelque chose pour nous quand on va au parloir? Et les quelques réponses qu'il y a disent qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais ce serait intéressant de savoir de manière plus large s'il y a des choses qui ont changé. Il y a juste une nana qui, par exemple, dit moi, dans la prison où je vais, si tes boucles d'oreilles, elles sonnent, avant, ils toléraient, maintenant, ils ne le tolèrent plus. Bon, ben, ça dépend encore et toujours des prisons. C'est pas un changement de loi, en fait, c'est plus le contexte qui fait que les surveillants vont décider de l'appliquer plus ou moins. Moi, quand je suis allée l'avant-dernière fois à la maison d'arrêt de Châteauroux, ils faisaient toute une mise en scène de ouf pour dire la sécurité va être renforcée, les contrôles vont être renforcés. En fait, les bouteilles d'eau qui étaient tolérées avant, et ben ils ne les toléraient plus que si elles étaient hermétiquement fermées. Bon, ben ça c'était surtout de la mise en scène, de faire style t'es super contrôlé parce que t'es en état d'urgence. Donc voilà. En gros, ne vous laissez pas avoir, et si vous voulez raconter des trucs bizarres qui se passent à ce sujet, écrivez-nous ou écrivez à l'OIP. Aujourd'hui.
Le bruit qui court.
Et on commence avec la maison d'arrêt de Beauvais qui ferme. Les détenus ont été transférés mi-décembre vers une nouvelle tôle, mais ils ont tenu à marquer le coup, à célébrer pour s'en souvenir longtemps de ce transfert. Tout ce qui pouvait être détruit l'a été. Tuyauterie, matelas, WC, vaisselle, et ce pendant toute une nuit, la dernière bien sûr. Les gradés ont demandé aux matons de ne pas intervenir. La maison d'arrêt de Beauvais ferme, elle est ravagée, big up.
Joyeux Noël Christophe Kider, on le connaît un peu ici, notamment pour son évasion de la centrale de Moulins de 2009 qui a réussi et de sa tentative d'évasion de Fresnes en 2001 par hélicoptère qui a foiré, tout comme celle de Lannemezan, par les souterrains. Enfin, pour Noël, des amis ne l'ont pas oublié, il a reçu un kilo de 59 kilos. Les matons l'ont apporté en transpalette alors que le poids maximal autorisé est normalement de 5 kilos.
Lundi 28 décembre, à sa prise de fonction, la nouvelle directrice de la maison d'arrêt de Douai a eu une cérémonie de bienvenue bien particulière. Un détenu lui a simplement craché au visage, histoire de poser l'ambiance et de lui rappeler l'ignominie de son travail. Pas de chance pour le détenu, quelques jours plus tard, en comparution immédiate, il a pris 2 ans supplémentaires.
Et on continue avec les gardiens de la prison de Béziers qui ont fait une découverte surprenante lundi 28 décembre pendant qu'ils faisaient ronde. Ils sont tombés sur un drone écrasé au sol dans l'enceinte de la prison. Le modèle était équipé d'une caméra vidéo et de LED pour les vols de nuit. Les gardiens étaient pas contents, mais vraiment pas contents. Ils proposent de mettre un filet de protection pour empêcher des objets volants d'entrer. En attendant, à vos drones.
Le soir du 31 décembre, les détenus de la prison de Namur ont eu aussi pour leur petite fête. Feux d'artifice ont été tirés dans la tôle, accompagnés de slogans « brique par brique, mur par mur, détruisons toutes les prisons ». Ils ont pillé cuillère par cuillère. En partant, le petit groupe n'a pas oublié de taguer les murs de la prison, matons, bourreaux et feux aux prisons.
Le 5 janvier, Karine Gérard, présidente de la cour d'appel de Bruxelles, Belgique, s'est fait rattraper par son travail dans la rue. Elle s'est fait copieusement taper dessus par 3 personnes, qui lui ont pris au passage quelques bijoux. Apparemment, ces gens n'étaient pas contents de voir la juge prononcer des peines de prison à tour de bras.
Le 9 janvier, ce sont 15 colis qui ont été interceptés par les matons dans la tôle de Villefranche-sur-Saône, à côté de Lyon. Cannabis et téléphone pour l'essentiel. Malheureusement, les 2 livreurs se sont fait choper et ils ont pris 6 et 9 mois de tôle en comparution immédiate.
Et le 12 janvier 2016 à Amiens, rendu de procès, condamnation à 2 ans de prison, dont 9 mois ferme aménageable pour d'anciens salariés, suite à un mouvement de grève face à leur direction Goodyear. Les prévenus ont annoncé leur intention de faire appel. Avant les différentes formes de lutte syndicale, telles que grève, menace de sabotage, sabotage, séquestration de patrons, occupation des usines ou lieu de réunion des patrons, ont très rarement donné lieu à des poursuites judiciaires. Mais bon, là, ils ont été, les 8 condamnés ont pris du ferme. Et c'est un peu, bah, ça fait un peu la lignée de Air France, quoi. C'est qu'après, ils se sont fait choper à 5h du matin. Bon, voilà. Et du coup, ils comptent bien faire appel et on va lire vite fait ce qu'ils disent pour le soutien qu'ils demandent. On appelle l'ensemble des salariés du privé et du public, de toutes les organisations syndicales. Je crois qu'ils étaient de la CIE, ils font partie de la CGT, je crois. Oh, je recommence. On appelle l'ensemble des salariés du privé et du public, de toute organisation syndicale ou non syndicale, à une mobilisation à la hauteur de l'attaque inouïe prononcée ce jour sur ordre du procureur de la République. La mobilisation à venir doit être la plus importante jamais connue à ce jour. Dès que nous aurons la date du jugement en appel, vous serez informés. Plus que jamais, la mobilisation de celles et ceux qui, comme nous, défendent les droits et les libertés, doivent être massive.
Et vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2, l'émission anticarcérale La Petite Cuillère, un jeudi sur deux en alternance avec l'émission Papillon. Vous êtes aussi sur Radio Audio 89.5.
Mmh. force nous faire croire que leurs murs sont infranchissables. Notre force, montrer que chaque jour, des personnes arrivent à les contourner, les franchir et détruire un petit peu. La Lima Ongle, une rubrique sur toutes les évasions.
Les fêtes, c'est dur en prison. Dimanche 27 décembre, deux jeunes détenus dans l'établissement pénitentiaire pour mineurs d'Orvault près de Nantes ont tenté de se faire la malle sans succès. Trois jours plus tard, c'est tous les détenus qui se sont mis ensemble pour saccager la tôle. Neuf cellules ont brûlé, quatre autres ont été entièrement saccagées entre minuit et 3h du matin.
Et c'était un bon début d'année, en revanche, au centre de semi-liberté d'Aubourdin dans le Nord. Un détenu s'est évadé en ouvrant la porte. En effet, depuis quelques mois, la porte de cette similitôle ne fermait plus. Aussi simple que ça.
Celle-là, elle est pas mal aussi.
Et pour terminer l'émission, la petite cuillère, pierre par pierre, brique par brique. Bon,
c'est des briques en Belgique.
On va faire un petit rendu, un petit retour sur le procès qui a... En ce moment même, toute cette semaine, à la cour d'assises de Bobigny. Alors, le procès s'est ouvert lundi 11 janvier 2016. C'est le procès de Damien Saboudjian, officier de police, qui comparaît pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique. C'est lui la personne dépositaire de l'autorité publique.
Parce
que c'est les...
un flic.
Voilà, parce que c'est des formules à rallonge. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur ? Eh ben, il était policier le 21 avril 2012.
Il est toujours policier, hein ?
Il est toujours policier, ouais. Il était en fonction. Il est appelé avec sa brigade à intervenir parce qu'un coup de fil signale qu'il y a la présence d'Amine Bentoussi dans une ville de banlieue. Non, je ne sais plus où elle est la ville, j'ai oublié de la noter. Bon, c'est pas grave. Et Amine Bentoussi, ça fait 2 ans qu'il est en cavale. Et il... quand il voit arriver les flics, je crois qu'il essaye de se barrer. Et puis là, bah, ce dit policier lui tire dessus et la balle sera fatale. Il lui tire de l'huile et de dos. Et puis voilà, et il meurt de cette... voilà, il meurt. Tout de suite après les faits, parce qu'il y a des suites aux témoins en fait, qui sont dans des voitures et les voisins. Et ben en fait, il témoigne que la perque Amine était de dos, qui était en train de courir et du coup qu'il n'était pas en train de menacer le policier. Et les faits sont qualifiés d'homicide volontaire. Mais par le juge d'instruction, ce qu'il faut savoir en fait que tu portes plainte et que c'est un juge d'instruction qui qualifie les faits et que souvent, par exemple, dans les violences dans les prisons, comme il y a souvent les faits, ils sont sous-qualifiés, voire ils sont le juge d'instruction, il ne fait pas d'appel, notamment pour les suicides ou les morts suspectes. C'est tout est la base du juge d'instruction pour qu'il y ait une ouverture d'enquête et qu'il y ait après un procès. Mais ce même juge d'instruction a requalifié les faits en violence volontaire. Rappelons tout de suite que c'est très très rare un procès pour les crimes policiers dans les cours d'assises. Souvent, ils sont jugés dans les tribunaux de grande instance. Alors qu'en fait, les cours d'assises, c'est là où sont jugés les crimes. Et les crimes, c'est les assassinats, les meurtres, les empoisonnements, les rapts, les viols, les vols avec armes. Mais souvent, ils sont disqualifiés. Bon, je ne pourrais pas vous redire de manière juridique qu'est-ce qui s'est passé. Et aussi, rappelons que... tout de suite après les faits, alors c'était le 21 avril 2012, le 25 avril 2012, plusieurs centaines de policiers ont fait une manifestation armée et en uniforme devant la direction territoriale de la sécurité de proximité à Bobigny, ainsi que sur les Champs-Élysées à Paris, à grand renfort de gyrophares, et c'était appelé par le syndicat Alliance Police Nationale. Et ils voulaient, en fait, ils étaient en train de dire, la légitime défense des flics, elle est plus possible, on va plus pouvoir faire notre métier, en fait, si ce flic se prend un homicide volontaire. C'est pour ça que ça a été requalifié en violence volontaire. Quatre ans plus tard, le procès s'ouvre enfin. Des fois, les familles et les collectifs peuvent attendre encore plus longtemps, comme c'était le cas d'Ié Dibouna, où ils ont attendu 10 ans. Le procès était en juin dernier. Et comme le rappelle le collectif Urgence, notre police assassine, hasard du calendrier ou non, ça s'ouvre en fait dans un contexte vraiment particulier, sensible et pour moi assez dégueu, parce qu'en fait ça s'ouvre dans les commémorations des attentats de janvier dernier de Charlie Hebdo, où il y avait eu après une escalade de surenchère sécuritaire, raciste et tout ça. Et voilà, avec tous les débats actuels sur l'état d'urgence, les différents débats sur la sécurité, notamment le fait que les policiers aient le droit de porter des armes en dehors de leurs heures de fonction. Le collectif craint que ça joue négativement sur le déroulé du procès. Ils craignent aussi que cette affaire soit instrumentalisée par un gouvernement ayant repris à son compte les réflexions droitières autour de la présomption de légitime défense. J'ai pas réussi à avoir beaucoup de rendus de, parce qu'aussi dans les médias, moi un peu de manière naïve, je m'étais dit Amel Bentoussi, qui est la grande sœur d'Amine Bentoussi, elle a beaucoup lutté, elle a organisé des manifestations, des commémorations, elle a eu un procès notamment de Valls, je crois, par rapport à son site Urgence Notre Police Assassine, où elle avait été grâce à sa défense, elle avait été je ne sais plus comment on dit les termes, mais bon, elle n'avait pas eu de suite. Et du coup, je m'étais dit que dans les médias, parce qu'en début de semaine, tous les médias ont parlé de l'ouverture de ce procès, qu'ils allaient l'interviewer, ou qu'ils allaient interviewer son collectif Urgence Notre Police Assassine, qui notamment, en fait, ils étaient à l'appel de la marche du 31 octobre dernier, la marche pour la dignité et contre le racisme, et qu'ils allaient, pour une fois, ils avaient une personne publique qui prend la parole régulièrement, et qu'ils allaient l'interroger, ou elle, ou ses proches, ou des personnes du collectif, pour, comme ils aiment bien, comme on nous dit dans les médias mainstream, on fait parler tout le monde, quoi. Les neutres, les institutions, les pour et les contre. Et ben non, c'était niette. Silence radio, on n'a pas du tout entendu parler du collectif Urgence Notre Police Assassine. Et dans un ou deux articles, on peut avoir des références à Amel Bentoussi, mais c'est vraiment hyper rare. Du coup, c'est juste le procès d'un flic qui était en légitime défense et qui a tiré sur un délinquant, sur un prisonnier en cavale, tout ce qu'on veut, quoi. Alors, les trucs que j'ai trouvés, il y a l'émission à l'actualité des luttes qui en parlait aujourd'hui ou hier sur Radio Fréquence Paris Pluriel, si vous voulez écouter un autre point de vue. Et là, pour terminer, en fait, c'est un retour du quatrième jour du procès selon France 3. Ça se déroule, pour eux, ce qui qualifie. Hein. Du coup, ce ne sera pas des camarades militants qui auront fait des communiqués qui diront ce qui se passe et ce qu'ils en pensent. Ils trouvent que ce procès se déroule dans une atmosphère tendue à la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. C'est le quatrième jour d'audience. Le jury tente toujours de démêler ces policiers de 36 ans agis par légitime défense en tuant Amine Bentoussi. La cour a aussi entendu les familles et les plaidoiries des avocates et des parties civiles. Et selon ce qu'il faut retenir, et alors moi je trouve que c'est assez frappant, c'est les propos racistes. L'avocat des parties civiles, c'est-à-dire quoi dire les parties civiles, pardon.
L'avocat de la famille.
Ah oui, c'est ça. A attaqué l'accusé sur les propos de ses amis. Tu as tué une chure ou encore un sale arabe ont été prononcés. L'accusé répond qu'il n'a pas à se justifier des propos de ses collègues. Les stratégies d'attaque du flic, un jour ils font en larmes, le jeudi ils changent d'attitude, ils attaquent le tribunal en disant j'ai pas confiance dans ce tribunal, vous ne comprenez pas ce que j'ai vécu, une personne qui vous braque avec une arme, je le souhaite à personne, etc. Donc du coup il veut faire pitié, alors que c'est quand même lui qui est jugé, lui qui a atteint la vie d'une personne.
Et qui lui a tiré dans le dos, qui l'a tué, c'est ça.
Et les experts au sujet de l'accusé, ils décrivent une personne qui se retrouve seule et qui n'a pas l'habitude. Et voilà, dire bon, ça on s'en fout en fait. Encore une autre situation du flic, il dit « J'ai l'impression que vous faites le procès de la police de mes collègues du commissariat, alors que c'est moi qu'on juge. Ben oui, mais tu fais partie d'une institution qui s'appelle la police, qui commet des crimes policiers
régulièrement et voilà. Plus souvent qu'à son tour.
Et des tabassages tous les jours, du coup. Bah ouais. Ça s'élargit, c'est pas que ton procès, c'est le procès de d'un corps de métier, de l'État.
Et voilà. Pour une fois qu'il y a un procès comme ça qui peut se tenir, c'est normal que l'accusation, elle se lâche un peu.
Et après, il martèle aussi des propos. J'ai braqué un individu et j'ai tiré. Et après, quand on essaye de voir s'il y a des incohérences, parce qu'il y a pas mal d'incohérences en fait entre ce que les flics ont dit, il a été pas mal protégé par sa hiérarchie, il est toujours en fonction, il a eu des mutations, voilà, on sait que ils sont jamais mis non plus au banc dans leur corps de métier. Il y a un appel demain à venir devant le tribunal de Bobigny le 15 janvier, du coup vendredi 15 janvier à 17h au terme du procès pour faire entendre votre voix, pour espérer qu'il y ait justice. Non, on ne sait pas s'il y aura justice. On continuera à en parler et peut-être qu'on essaiera d'interviewer des personnes qui ont été présentes au procès qui pourraient faire une analyse plus intéressante que ce qu'on peut lire dans les médias.
Un petit agenda ?
Ouais, un petit agenda. Eh bien, le petit agenda, c'est dans 15 jours, jeudi 28 janvier, de 19h30 à 22h à la librairie café Un Petit Noir à Lyon, je crois à la Croix-Rousse. Une rencontre organisée avec un ancien prisonnier Q à l'occasion de la sortie de son livre « Beau comme une prison qui brûle ». Il sera accompagné de Nadia Ménanger, fondatrice, une des fondatrices du journal L'Envolée qu'on vous parlait précédemment dans l'émission, et auteur du livre « À ceux qui se croient libres ». L'ouvrage a été réédité précédemment. Voilà, alors, petite explication de ce que c'est ces deux livres. Ces deux livres reviennent sur les révoltes des prisonniers qui ont eu lieu dans les années 80 jusque dans les années 90. Q, alors jeune détenu, a été l'un des révoltés de la centrale d'Einzelsheim, qui aboutira à sa destruction en 88. Et Nadia Ménanger, dans son livre « À ceux qui se croient libres », s'intéresse quant à elle au parcours d'un prisonnier longue peine, Thierry Chaptie, qui est mort en 2006. Au-delà de la compréhension d'une époque, son recueil de lettres et de témoignages sont indispensables pour appréhender la routine carcérale des longues peines, celle des quartiers d'isolement, des transferts, de leurs revendications, les mêmes qu'aujourd'hui. Et cette même soirée se déroulera le lendemain, le 29 janvier 2016, à la Gueule Noire, centre social autogéré, 16 rue du Mont, à Saint-Étienne, dans le quartier de Bellevue.
Voilà, on vous rappelle que vous pouvez nous écrire pour nous faire passer des infos, vous nous dire, nous faire des commentaires ou ce que vous voulez. À Atelier d'écriture, 91 rue Montesquieu, 69007 Lyon. Ou alors, nous laisser des messages à nous ou à des personnes incarcérées dans les tôles de Lyon et Saint-Étienne et leurs environs au 07 81 35 93 71. 07 81 35 93 71. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre blog. Et on a aussi une adresse mail, lapetitecuillere@riseup.net. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on se retrouve avec l'émission Papillon. Et puis, en attendant, on vous souhaite une bonne soirée.
Voilà, la suite des programmes sur Radio Canu, comme tous les jeudis soirs.